Le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à tous et bienvenue à chacun. Vous écoutez le service protestant du dimanche matin sur France Culture. Nous accueillons aujourd'hui le pasteur Elian Cuvillier de l'Église protestante unie de France. Il est le directeur du Master en théologie appliquée, enseigné à l'Institut protestant de théologie dans les facultés de Paris et de Montpellier. Elian Cuvillier attire notre attention sur l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, versets 13 à 18. Il est régulièrement question dans l'actualité de murs, de rejets et d'attitudes identitaires. Le texte de ce dimanche nous montre comment en Christ, murs et peurs sont abattus et surmontés. C'est une invitation à la rencontre véritable de l'autre.
Au cœur de l'été, alors que tout invite au divertissement, vous qui m'écoutez ce matin avez pris le temps du silence et de l'écoute. En vacances ou au travail, actifs ou retraités, malades ou en bonne santé, seuls ou en famille, heureux ou malheureux, peu importe. Ce choix de faire silence et d'écouter gomme ces différences, au moins l'espace de ce temps mis à part. Les Écritures bibliques viennent maintenant à notre rencontre. Pour nous préparer chacune et chacun à cette rencontre, écoutons cette prière de saint Augustin. Autant que je l'ai pu, autant que tu m'as donné de le pouvoir, je t'ai cherché. J'ai désiré voir par l'intelligence ce que je croyais. J'ai beaucoup étudié et beaucoup peiné. Seigneur mon Dieu, mon unique espérance, exauce-moi. De peur que par lassitude, je ne veuille plus te chercher. Mais fais que toujours je cherche ardemment ta face. Donne-moi la force de te chercher, toi qui m'as fait te trouver et qui m'as donné l'espoir de te trouver de plus en plus. Devant toi est ma force, devant toi est ma faiblesse. Garde ma force, guéris ma faiblesse. Devant toi est ma science, devant toi est mon ignorance. Là où tu m'as ouvert, accueille-moi quand je veux entrer. Là où tu m'as fermé, ouvre-moi quand je viens frapper. Que ce soit de toi que je me souvienne, toi que je comprenne, toi que j'aime. Augmente en moi ces trois dons, le souvenir, l'intelligence, l'amour, jusqu'à ce que tu m'aies réformé tout entier. Ce dimanche, deux textes du Nouveau Testament sont proposés à notre écoute. Un texte dans l'Évangile de Marc, au chapitre 6, les versets 30 à 34. Et puis un autre texte, peut-être plus difficile, dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, les versets 13 à 18. C'est ce texte-là avec lequel je vous propose de cheminer. Écoutons-le pour commencer. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui jadis étiez loin, vous avez été rendus proches par le sang du Christ. C'est lui, en effet, qui est notre paix. De ce qui était divisé, il a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit le mur de séparation, la haine. Il a aboli la loi et ses commandements avec leurs observances. Il a voulu ainsi, à partir du juif et du païen, créer en lui un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, tous les deux en un seul corps, au moyen de la croix. Là, il a tué la haine en lui. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient proches. Et c'est grâce à lui que les uns et les autres, dans un seul esprit, nous avons l'accès auprès du Père. » Avant de découvrir ce texte dans le détail, un détour est nécessaire par la question épineuse de la difficulté des textes bibliques. Celle-ci heurte en nous la conviction que le texte biblique est accessible aux plus humbles. Que faire alors de cette tension entre difficulté et simplicité ? Une difficulté liée certes à la distance historique entre nous et le texte, mais pas seulement. Son propos est aussi complexe, rude, âpre. Que faire de cet écart entre difficulté ressentie et simplicité souhaitée et souhaitable ? Quelqu'un a dit un jour « Le poème fait le difficile ». Il voulait dire que le poème résiste à la livraison de significations toutes faites, habituelles, qui ne nécessitent même pas que l'on réfléchisse. Que le poème offre la possibilité de questionner, de chercher, d'entendre des choses jusque-là inouïes. Eh bien, d'une certaine manière, le texte biblique de ce matin est comme un poème. Lui aussi fait parfois le difficile. Lui aussi résiste à la livraison de significations toutes faites. Il déconstruit les significations habituelles et ouvre la possibilité de questionner, de chercher, d'entendre autre chose. Malheureusement, trop souvent, nous nous contentons des redites habituelles qui ne nous parlent que superficiellement. Car s'il est accessible aux plus humbles, le texte biblique ne l'est que lorsqu'il vient s'inscrire dans l'intime, là où justement il défait, délie les nœuds qui nous empêchent de comprendre autrement et le texte et notre existence. Il vient au plus profond du cœur disponible ouvrir, questionner, chercher. Là réside la simplicité du texte biblique, lorsqu'il se révèle à qui le reçoit comme une évidence, mais une évidence qui dévoile ce qui était jusque-là su sans être connu. Mais cette simplicité demande un profond travail, une traversée parfois longue et pénible. La simplicité évangélique n'exclut pas, bien au contraire, elle suppose, elle convoque l'effort de l'intelligence et parfois la douleur de la découverte de ce qui nous tenait prisonniers, incapables d'entendre. Or, pour entendre ce que ces textes défont, délient et ouvrent, il faut, si vous me permettez cette expression, il faut plus d'une lecture. Plus d'une lecture, c'est-à-dire tout à la fois il ne faut plus de certaines lectures. Il nous faut les abandonner, non pas parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles sont automatiques et qu'elles ne nous parlent plus. Oui, il ne nous faut plus, à nous personnellement, de certaines lectures. En même temps qu'il nous en faut plus d'une, il en faut plus d'une seule, mais aussi plus de la même lecture qu'il faut poursuivre jusqu'au bout pour qu'elle en dise plus que ce qu'elle semble dire habituellement. Lire plus et plus encore pour espérer entendre la Bible de façon nouvelle. Oui, j'insiste, il ne faut plus d'une seule lecture, et il en faut plus d'une. Voilà le double défi auquel nous sommes toujours confrontés. C'est ce défi que je vous propose ce matin, avec le texte dense et difficile de l'Épître aux Éphésiens, que nous allons maintenant entendre une seconde fois, et que je reprendrai ensuite dans le détail, pour tenter de repérer ce que j'appelle les ressources qu'il recèle, pour nous aider à penser notre existence dans le monde qui est le nôtre. Réécoutons le texte de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 13 à 18. « Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui jadis étiez loin, vous avez été rendus proches par le sang du Christ. C'est lui en effet qui est notre paix. De ce qui était divisé, il a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit le mur de séparation, la haine. Il a aboli la loi et ses commandements avec leurs observances. Il a voulu ainsi, à partir du juif et du païen, créer en lui un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, tous les deux, en un seul corps, au moyen de la croix. Là, il a tué la haine en lui. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient proches. Et c'est grâce à lui que les uns et les autres, dans un seul esprit, nous avons l'accès auprès du Père. Commençons la visite de notre texte. Le texte s'ouvre par un « maintenant ». Un « maintenant » que nous allons différer. Nous y reviendrons en terminant. Le thème principal, c'est la réconciliation entre deux groupes, ceux qui sont loin et ceux qui sont proches. Ce motif est présent à chaque verset du passage. Verset 13, « Vous qui jadis étiez loin, vous avez été rendus proches ». Verset 14, « De ceux qui étaient divisés, il a fait une unité ». Verset 15, « Il a voulu ainsi, à partir du juif et du païen, créer en lui un seul homme nouveau ». Verset 16, « Et les réconcilier tous les deux en un seul corps ». Verset 17, « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches ». Et enfin, verset 18, « Les uns et les autres, dans un seul esprit, nous avons l'accès auprès du Père ». Historiquement, le contexte de l'Épître, écrite à la fin du 1er siècle, éclaire le sens du propos. Une majorité de païens sont désormais dans les premières communautés, que l'on dira chrétiennes, même s'il ne faut pas charger ce terme du sens que nous lui mettons, fort de 2000 ans d'histoire du christianisme. Mais à cette époque, une double question se pose. Quelle est la place des païens au sein de ces communautés? Et en retour, quelle est la place des disciples de Jésus d'origine juive qui sont désormais moins nombreux que ceux d'origine païenne? Et la réponse du texte est claire. Certes, la place des païens est légitime, mais il ne s'agit pas de remplacer un peuple par un autre. L'Église n'est pas le nouvel Israël. Il n'y a pas de nouvel Israël. Il s'agit plus fondamentalement de réconcilier, d'unir juifs et païens. Non pas remplacer, mais unir. Non pas exclure, mais faire vivre ensemble. Les faire vivre ensemble, mais pas en miroir, pas en vis-à-vis. Les faire vivre ensemble en présence d'un tiers. Devant Dieu, nous dit le texte, c'est-à-dire en langage non religieux, avec de l'extériorité. Et voilà une première ressource que notre texte nous propose pour aujourd'hui. Comment faire vivre ensemble deux peuples, deux groupes, deux communautés séparées par l'histoire, la culture, la religion, en se référant à quelque chose qui les dépasse et dont ils reconnaissent l'autorité. C'est-à-dire à quelque chose qui les décentre d'eux-mêmes pour les fonder ailleurs que dans leur identité première. Il faut que quelque chose tombe en chacune des deux communautés pour qu'il y ait possibilité d'une unité qui ouvre sur autre chose. Vivre la réconciliation suppose chez les protagonistes le courage de la perte et du décentrement et l'acceptation d'un tiers. Mais revenons à notre texte. Telle fut donc l'espérance que suscita la naissance du christianisme, l'émergence d'une nouvelle communauté qui allait, pensait-on, dépasser les anciennes identités. La prétention un peu folle et risquée de constituer un peuple nouveau, un homme nouveau. On sait bien à quelle dérive l'idée a pu conduire dans l'histoire de l'humanité. Et le christianisme ne les a pas toujours évitées, ces dérives. Souvent, trop souvent, au détriment de l'autre peuple, celui qu'il prétendait remplacer, et qui cependant, contre vents et marées, ne cessait d'exister. Aujourd'hui, le christianisme a, fort heureusement, dans son immense majorité, abandonné ses prétentions hégémoniques et ses dérives antisémites. Et s'il a réussi en partie à constituer un peuple nouveau par-delà les nationalités différentes qui le composent, il sait qu'il lui faut apprendre à vivre avec d'autres, avec d'autres peuples, avec d'autres religions, faire la paix avec d'autres. Le judaïsme, bien sûr, l'islam, mais pas seulement. Comment s'opère alors ce travail de pacification? Le texte nous l'indique, et c'est le deuxième point sur lequel je m'arrête, sa deuxième ressource. Cette paix réconciliatrice, elle se fait d'une façon très particulière. Destruction d'un mur de séparation, abolition d'un type de rapport particulier à la loi, comprendre ici la Torah, et puis tuer, détruire la haine. Reprenons chacun de ces trois éléments qui n'en sont finalement qu'un, formulés de trois manières différentes. Et tout d'abord, détruire le mur de séparation. Parce que jamais un mur n'a donné la paix. Jamais, qu'on se le dise. On pourrait épiloguer longuement sur la notion de mur. Combien de fois les humains construisaient-ils des murs pour séparer, se protéger de l'extérieur, se garantir la paix? Réflexe normal, nécessaire parfois, semble-t-il. Mais ici, il s'agit de le détruire, parce qu'il empêche la rencontre avec l'autre, et donc la paix. Ensuite, nous dit le texte, abolir la loi, c'est-à-dire la Torah comme commandement, littéralement on pourrait dire comme dogme. Attention, le texte ne dit pas qu'il faut en finir avec la Torah comme ressource permettant de comprendre son existence dans le monde. Non. Il s'agit d'abandonner ce qui, par son instrumentalisation, permet de discriminer, de séparer et d'interdire la fréquentation des autres considérés comme impurs. Un risque qui concerne non pas la Torah en tant que telle, mais toutes les lois, tous les marqueurs identitaires que nous nous donnons et qui nous séparent des autres. Et en cette affaire, il faut bien l'avouer, le christianisme a très vite reconstruit les murs de séparation en établissant des lois discriminatrices entre croyants et incroyants, chrétiens et juifs qui devaient vivre dans les ghettos. Enfin, troisième élément, il s'agit de tuer la haine qui oppose les humains entre eux. On ne combat pas la haine avec des bons sentiments. Parce que la haine est en chacune et chacun de nous. En Dieu aussi qui doit détruire la haine dans sa chair, celle du Christ, et tuer la haine en lui, le Christ. Avec cette double expression difficile, détruisant la haine dans sa chair ou tuant la haine en lui. Le texte peut aussi être traduit « tuant la haine en elle » en parlant de la croix, mais le sens est le même. Il y a bien, en Dieu et dans le Christ, une part de haine à tuer. C'est donc d'un combat qu'il s'agit. Détruire le mur, abolir la loi en tant que dogme, tuer la haine. Les mots sont forts et ils ont Christ comme sujet principal. La paix, c'est un combat à mort. Et Christ est l'acteur principal, presque unique, de ce combat. Alors, quelles ressources cela désigne-t-il dans le christianisme? Eh bien, je pense que cela dessine et désigne une nouvelle figure de Dieu. Dans ce combat sans merci, puisqu'à la fin l'adversaire principal doit mourir, le Dieu de Jésus-Christ se modifie dans la personne de son Fils. Il se modifie de trois manières. Se déconstruit d'abord la figure d'un Dieu qui choisirait les uns contre les autres, puisqu'il s'agit de réconcilier les uns avec les autres. se déconstruit ensuite un Dieu dont la loi ne consiste pas à édicter des prescriptions qui discriminent, mais qui permet de vivre ensemble. Enfin, se déconstruit un Dieu qui tue en lui la haine dans la chair de son Fils. Donc, un Dieu qui se laisse affecter, qui se modifie dans sa nature même, dans son essence. Ce déplacement et ce tiers que nous notions précédemment comme une nécessité de la réconciliation entre deux communautés, le Dieu du christianisme le vit lui-même dans la figure de son Fils. Un Dieu en somme qui s'implique dans l'histoire des hommes d'une façon toute particulière. Voici maintenant la troisième ressource de notre texte. Le texte insiste sur les modalités de ce combat du Christ. Je retiens trois expressions. Dans son sang, dans sa chair, par la croix. Creusons un peu si vous le voulez bien. Ne nous empressons pas ici de convoquer le langage religieux sacrificiel au sens le plus classique. Ce qui nous est dit est à la fois moins ambigu et plus direct. C'est de l'incarnation dont il est question. Un Dieu incarné, c'est-à-dire dans la chair humaine, est mourant. Voilà ce qui est et demeure la spécificité du christianisme dans le cadre des religions avec lesquelles il doit vivre. Non pas Dieu dans son ciel à distance radicale de l'humanité, non pas Dieu dans la seule Torah, mais un Dieu, j'insiste sur ce mot, incarné. Le Dieu de Jésus ne regarde pas le monde du haut de l'Olympe, ni ne décide de descendre de temps en temps pour se promener au milieu des humains et jouer à les provoquer ou les séduire. Non, le Dieu de Jésus a véritablement mis les mains dans le cambouis. Il s'est incarné, dans son sang, dans sa chair, par la croix. Cela veut dire, si vous me permettez l'expression, qu'il en a pris plein la figure, Dieu. Il n'en est pas sorti indemne. Il en est mort de ce combat contre la haine. Le combat contre la haine, la division, le mur de séparation, ce n'est pas avec des grands discours qu'il l'a mené. Il en a pris les coups. Dieu s'est compromis avec nous. Il a mené un combat corps à corps, comme l'ange luttant avec Jacob au gué de Jabok. C'est là, dans le corps, dans la chair, dans la croix comme lieu de la faille, que la vie se donne à travers la mort. Et c'est pourquoi la notion de résurrection de la chair est fondamentale. Si c'est dans sa propre chair humaine que Dieu a souffert le combat contre la haine, si c'est dans la chair de son Fils qu'il a subi la croix, c'est pour signifier que c'est dans la chair meurtrie qui est la nôtre que la vie véritable se donne à connaître. Je crois à la résurrection de la chair. Cela veut dire avant tout ceci. C'est ici et maintenant, dans le concret de notre existence, que la vie se reçoit. Dans le combat contre la haine qui est en nous. Ici et maintenant. Revenons pour conclure à notre maintenant du début. C'est ici et maintenant que cela peut faire sens pour chacune et chacun. Pour celui qui entend cette parole et en qui elle fait sens dans l'intime de son existence. Dans cette traversée de la haine, dans ce renversement du mur de séparation, dans cette libération d'une loi qui fait prison au lieu d'ouverture, il n'est pas tout seul. Dieu, en Christ, l'a fait pour lui, avec lui, en lui. Et voilà la dernière ressource que je pointe ce matin. Le Dieu du christianisme est un Dieu qui s'offre et se rencontre dans l'existence la plus intime, comme une expérience apte à ébranler les murailles les plus hautes, abolir les prisons identitaires les plus tenaces et tuer les haines les plus féroces. Amen. Si vous le cherchez dans les méandres de votre vie et de votre histoire, alors écoutez. C'est lui qui vous a cherché le premier et qui viendra toujours à nouveau vous trouver, peut-être à l'heure où vous pensiez que plus rien ne surviendrait pour vous. Si vous l'appelez de tout votre cœur, de toute votre force et de toute votre âme, alors écoutez ceci. C'est lui qui, le premier, vous a appelé par votre nom, d'un nom que nul ne peut vous ravir, parce qu'il est le nom que quelqu'un donne à celui qu'il aime, d'un amour inconditionnel. Et si vous désirez déposer devant lui un peu de ce que vous possédez et de ce que vous pensez être, alors écoutez bien. C'est lui qui, le premier, sans rien exiger en échange, vous donne la paix et la confiance qui sont nécessaires à votre vie. C'est pourquoi, si l'on vous demande de justifier votre existence, alors désignez simplement au cœur de vous-même ce qui vous a été donné, la parole qui vous a aimé, le geste qui vous a guéri, la présence qui vous a relevé. C'est cela qui justifiera votre vie. Ce que quelqu'un a fait pour vous, ce que Jésus-Christ a fait pour vous.
Ainsi s'achève ce service protestant avec le pasteur Elian Cuvillier de l'Église protestante unie de France. Il est le directeur du master en théologie appliquée, enseigné à l'Institut protestant de théologie dans les facultés de Paris et de Montpellier. Merci à vous pour votre écoute, merci à Clotilde Pivin pour la réalisation et à Bernard Laniel pour la prise de son. Le service protestant est proposé par Michel Schaeffer pour la Fédération protestante de France, présenté aujourd'hui par Olivier Betty. Retrouvez cette émission en téléchargement sur les sites franceculture.fr ou protestant.org. Si vous souhaitez recevoir le texte de ce dimanche matin, une adresse postale, Service Radio, Fédération Protestante de France, 47 rue de Clichy, 75 009, Paris. Restez à l'écoute de France Culture, à 9h, le journal, suivi de Talmudic, présenté par Marc-Alain Wachnin. Bon dimanche à tous et à chacun.